Nous avons connu en juillet, sur le monde entier, les 7 jours les plus chauds sur les 100 000 dernières années. 100 000 dernières années. Je voudrais quand même le dire pour que tout le monde mesure ce qui est en train de se passer. Et nous avons notamment des situations de sécheresse, évidemment, en France. D'abord, il faut agir sur la question des situations de l'eau qui sont aujourd'hui inutiles. Par exemple, l'année dernière, peut-être vous en rappelez-vous, mais il y avait des polémiques sur le fait qu'on continue d'arroser des golfs alors que la population, et notamment des maraîchers, sont restreints dans leur utilisation de l'eau. Ensuite, il faut interdire des projets inutiles. Je pense évidemment aux mégabassines. Vous savez d'où viennent les mégabassines ? C'est l'héritage de Pinochet au Chili, qui fait qu'aujourd'hui le Chili, qui a pourtant la troisième ressource en eau au monde, se retrouve dans un stress hydrique comme rarement d'autres pays le connaissent. Donc dans une situation dramatique. There is no planet B.
There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h.
Il y en a trop ou pas assez, on la pollue et la rend impropre à la consommation humaine, elle contient désormais des microplastiques et des polluants éternels jusque dans les cimes de nos montagnes. Certains imaginent des projets dispendieux pendant que d'autres ne peuvent plus faire pousser des légumes qui nous nourrissent. L'eau sera le sujet majeur du XXIe siècle. Celle qui s'exprimait en prélude et Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, en juillet dernier. Elle a présidé en 2021 une commission d'enquête parlementaire relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences. Ce rapport se trouve en ligne, on vous met le lien. Alors que depuis juillet 2010, l'ONU a reconnu, grâce à l'impulsion de la Bolivie, le droit à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit fondamental, essentiel à la vie, ce droit est en danger. Le GIEC nous alerte sur le fait que la moitié de la population mondiale sera en insécurité sur l'approvisionnement en eau d'ici 2025, demain donc. Certes, la quantité d'eau globale sur Terre ne change pas, mais l'état de cette eau change sous l'effet des activités humaines et du changement climatique notamment. Si la température mondiale augmente, il y a davantage d'eau dans l'atmosphère sous forme de vapeur, cela augmente ce qu'on appelle le flux évaporatoire au-dessus des mers comme au-dessus de la Terre. Les pluies deviennent plus intenses lorsqu'il y en a, mais entre ces épisodes pluvieux de plus en plus irréguliers, l'eau s'évapore des sols et ceux-ci se dessèchent. À cela s'ajoute la diversité des sols et des situations qui fait que pour une même quantité d'eau reçue, certains sols se dessèchent plus vite que d'autres, notamment en fonction de la quantité de carbone stockée dans ce sol. Et enfin, le seuil de précipitation lui-même varie selon les régions de France, et alors qu'un département comme la Gironde a reçu en un mois et demi, entre novembre et décembre, autant d'eau qu'il en reçoit en un an d'habitude, certaines régions sont dans une situation de sécheresse, au point que fin décembre, des arrêtés sécheresse étaient pris dans l'Hérault, dans l'Ain ou dans l'Aude. Le bassin versant Adour-Garonne, qui occupe la plus grande partie de notre région en Nouvelle-Aquitaine, est en déficit, c'est-à-dire que le volume d'eau qui est prélevé est supérieur à la capacité de se régénérer. Ce déficit est d'environ 200 millions de mètres cubes par an, et on prévoit qu'il atteindra 1 milliard de mètres cubes d'ici 2030-2040. Le bassin de la Garonne est l'un des plus impactés par les activités humaines et notamment par la production de maïs et de soja. En Gironde, tout va bien, serait-on tenté de dire. Non seulement il pleut, mais en plus notre approvisionnement en eau vient pour l'essentiel de nappes profondes dont l'eau a mis plusieurs dizaines de milliers d'années à s'infiltrer depuis le massif central. Quand même, dans un communiqué de septembre 2023, le préfet de Gironde a indiqué que ces nappes profondes étaient fortement sollicitées du fait des prélèvements réalisés tout au long de l'année et qu'il était indispensable d'assurer une gestion économe de l'eau On sait que ces nappes sont en dépression qui s'aggrave depuis des années. Disons-le clairement, cette eau patrimoine devrait être uniquement destinée à la consommation humaine et il est scandaleux qu'on s'en serve à arroser des pelouses de golf, refroidir des machines-outils, voire même à l'utiliser dans nos toilettes. À cette situation déjà inquiétante, s'ajoute la capacité infinie de nos contemporains, riches ou irresponsables ou les deux, à inventer des projets totalement inutiles, gaspilleurs de notre ressource commune et écocidaires. Leur imagination ne désarme pas et les rapports du GIEC ou de l'IPBES peuvent s'accumuler. Rien ne semble pouvoir empêcher les promoteurs de ces projets à nous envoyer tous dans le mur. Cette semaine avait lieu la présentation à l'hôtel de région du cahier « Gestion quantitative de l'eau et usage agricole sous contrainte climatique » élaboré par l'équipe d'Aclimatera. Aclimatera rassemble depuis 2011 une équipe de chercheurs indépendants pour mener une mission d'expertise sur justement les impacts du changement climatique en Aquitaine. Cette fois-ci, l'expertise présentée porte sur les controverses qui ont défrayé la chronique ces dernières années à propos des réserves et retenues d'eau à usage agricole, couramment appelées bassines. Un éclairage strictement scientifique donc, car comme l'affirme Hervé Letreux, président de l'Aclimatera dans son introduction, ce n'est pas de moins de science dont nous avons besoin, mais bien au contraire, d'une science davantage à l'écoute des attentes de nos concitoyens. Dont acte. Au cours de l'émission de ce soir, et avant de donner la parole à quelques experts d'Aclimatera qui n'ont pas mâché leurs mots au sujet de ces méga-bassines, nous donnerons la parole à des associations qui luttent contre un projet de méga-piscine à vagues. Et pour clore l'émission, sur une note plus optimiste, nous rencontrons une activiste du massif des Aravis qui nous parle, elle, des projets de méga-bassines servant à alimenter des canons à neige et autres centres balnéaires touristiques que les opposants ont réussi à stopper. Dans tous les cas, ceux qui veulent empêcher les projets de méga-piscines à vagues, de méga-bassines agricoles de plaine, de méga-bassines touristiques de montagne, sont obligés de fournir un énorme travail argumentaire, s'appuyant sur des expertises scientifiques solides pour pouvoir engager des actions en justice, souvent longues. Un travail fastidieux et exigeant, mais qui fait sacrément grandir la démocratie quand, du côté du gouvernement, on a de cesse de raccourcir les procédures, de supprimer les normes, vous savez, les exigences environnementales. Eh bien, c'est ce fourmillement démocratique auquel nous souhaitons rendre hommage ce soir. Parlons d'abord de ce projet de surf park, de méga piscine à vagues, à Canéjan. Un projet qui consommerait entre 140 et 180 000 mètres cubes par an, soit 40 à 55% de la consommation de cette ville de Canéjan. Pour mémoire, la consommation sobre d'un particulier est de 50 mètres cubes par an, tout compris. Il faut dire que ces méga-piscines feraient près de 11 fois en superficie et 8 fois en volume celui d'une piscine olympique. Cette surconsommation a été évaluée de façon très argumentée par des scientifiques indépendants en utilisant toutes les informations à leur disposition, alors que le porteur de ce projet annonçait une consommation, lui, de 13 000 m3, soit au moins 10 fois moins, dans son dossier de demande de permis de construire. Nous avions évoqué ici ce projet délirant de surf park avec Rémi Petit de l'association Canéjan en transition et Vanessa Balsi de Surfrider lors de notre émission du 26 mai dernier. Nous les avons retrouvés lors d'une conférence de presse qu'ils ont donnée ce mardi 23 janvier au Club de la Presse de Bordeaux, accompagné de Florence Bougot de la CEPENSO. Il faut dire que les trois associations n'ont pas chômé depuis le printemps dernier. Elles ont déposé en juillet un recours contre le permis de construire. Elles ont initié une pétition qui rassemble désormais 64 000 signatures et de nombreux médias nationaux se sont fait l'écho des inquiétudes exprimées par les habitants et par les élus même de tous bords. Les promoteurs du projet assurent que leur surf park sera autonome en eau, tout viendrait de la pluie. L'objectif de la conférence de presse de mardi était de présenter les arguments du nouveau recours que les associations viennent de déposer en ce mois de janvier, en réplique aux arguments des promoteurs et de la mairie. Il vise notamment à démontrer l'énorme gaspillage d'eau potable qu'impliquerait la création de ce surf park et d'aborder les risques sanitaires. Mais ce n'est pas le seul problème. On écoute Rémi.
Bonjour Rémi, donc on est à cette conférence de presse de vos trois associations, c'est Penseau, Surfrider et Canéja en transition. Et depuis la dernière fois que vous étiez venu à la radio, Vanessa et toi, ce qui s'est passé, c'est que vous avez déposé l'été dernier un recours contre le permis de construire de ce surf park, cette piscine à vagues.
Exactement, et donc ils y ont répondu, à la fois les promoteurs et la commune de Canéja ont répondu à cette requête. Et donc là, début janvier...
Requête en tribunal administratif.
Oui, toujours au tribunal administratif. Hein. Il faut savoir, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'audience particulière. Il y a des échanges de documents. Et donc nous, on a répliqué début janvier avec de nouveaux éléments. Et donc ça clôt une première phase de ce procès au tribunal administratif. C'est la cristallisation, c'est la phase de cristallisation, puisqu'on a ouvert toute une série de dossiers pour lesquels on considère que le permis de construire est illégal. Voilà. Et donc là, on a présenté aujourd'hui trois points. Ces trois points essentiels, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils le savent, c'est dans le dossier que les sols sont contaminés aux métaux lourds et aux hydrocarbures, puisque c'est un ancien site industriel depuis les années 70 pour une industrie très polluante, des cartes électroniques. Et donc, il y a eu, conformément à ce que préconise la loi, puisque c'est référencé dans les bases de données des sols pollués, une étude de fait qui est annexée au permis de construire, mais qui donne des préconisations, et notamment concernant l'utilisation de ces sols contaminés à l'extérieur du site. Parce que c'est un site qui va accueillir le public. Donc eux font fi de cette demande veulent l'utiliser, le réutiliser pour faire une butte sur le site. Ça, c'est un premier point qu'on a mis dans ce mémoire en réplique. Un deuxième point, c'est qu'on souligne les multiples risques sanitaires pris par les promoteurs, qui ne suivent pas les préconisations de la norme AFNOR, pourtant exigée notamment par le président de la Fédération française de surf. C'était une condition ferme de sa part pour pouvoir soutenir le projet. Projet donc qu'il avait soutenu initialement, eh bien il retire son soutien parce qu'il voit que les demandes pour la santé des surfeurs ne sont pas prises en compte. Et c'est vraiment une accumulation de points de risque sanitaire pris. Ils n'ont comptabilisé dans les consommations d'eau qu'une douche à l'entrée, celle qui est obligatoire, comme si les surfeurs n'allaient pas se doucher à la sortie. Ils prévoient de récupérer l'eau sur les toits, donc on n'est pas du tout sûr que ce soit autorisé en fait. C'est des risques accrus de récupérer cette eau sur des toits industriels dont on ignore la composition d'ailleurs. Ils veulent aussi pouvoir aller jusqu'au bout de leur logique d'autonomie en eau, fermer le petit bassin pour l'utiliser comme réservoir pour le grand, mais qu'est-ce qui nous garantit le maintien de la qualité sanitaire de cette eau dans un bassin qui perd son eau et qui n'est plus utilisé. Voilà, c'est vraiment, et puis donc ils ne veulent pas renouveler l'eau, ils ne veulent pas filtrer l'eau autant que ce qui est préconisé dans le cadre de la norme AFNOR. Voilà, ils prennent vraiment une série de risques qu'on n'a pas trouvé dans d'autres projets de surf park équivalents qui existent ailleurs dans le monde. Donc voilà, et ça, tout ça pour arriver à mon troisième point, qui est pour pouvoir annoncer sur le papier une autonomie en eau. Qui finalement, même indépendamment presque de ces problématiques sanitaires, est tout simplement nul et non avenu, puisque les calculs qu'ils ont faits, la modélisation ultra simplifiée qu'ils présentent n'est pas du tout recevable, ne correspond pas à l'état de l'art. Et c'est ça qu'un scientifique...
Vous avez sollicité un scientifique un peu indépendant des associations qui a fait une étude sur cette consommation en eau.
Exactement, une étude indépendante sur cette consommation d'eau en suivant rigoureusement les les détails du permis de construire sur la structure de ces bassins, la récupération d'eau sur les toits, la superficie, le volume de ces bassins, les volumes des réservoirs. Il a tout suivi exactement ce qui était prévu dans le permis de construire, et il a regardé qu'est-ce qu'on pouvait prédire en termes de consommation d'eau, en fait. Et donc il arrive à un chiffre. Si on intègre aussi les autres aspects de consommation d'eau sur le surf park, les douches, l'arrosage des espaces verts, etc., on arrive à 10 à 12 fois plus que ce que eux annoncent uniquement pour la partie hôtelière et douche. Donc voilà,
fois 10. Il y a clairement un mensonge, et d'ailleurs votre recours porte c'est une plainte pour fraude.
Parmi les chefs d'accusation, il y a différents niveaux, mais il y a y compris l'accusation pour fraude sur cet aspect eau, consommation d'eau, puisque la partie consommation d'eau est clairement annoncée dans le permis de construire. Elle a donc clairement influencé ceux qui ont autorisé, qui ont signé le permis de construire pour la mairie de Canéjean, mais aussi l'autorité environnementale. Ils avaient en face d'eux ces déclarations de consommation d'eau, divisées par 10 par rapport à ce que nous on trouve. C'est pour ça qu'on attaque pour fraude, oui.
Et le maire de Canéjean pourrait en faire autant, puisqu'il, lui, a délivré un permis de construire sur la base d'un dossier falsifié.
Oui, au début, quand on a rencontré la mairie de Canéjean, il nous a expliqué tout de suite que dans un permis de construire, c'est du déclaratif. Et eux n'ont pas les compétences pour vérifier les affirmations. Il y avait cette étude qui était jointe au dossier, étude d'Ingetech, avec les estimations de consommation d'eau. Et donc, n'ayant pas d'autres éléments pour juger de la véracité de ces chiffres, ils disent qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de signer. Donc maintenant, ils appelaient de leur vœu la commune, le maire de Canéjean et le président de la Fédération française de surf appelaient de leur vœu une étude indépendante sur la consommation d'eau. Ils sentaient bien qu'il y avait quand même un souci. Nous, on a fourni une telle étude. À eux de s'en emparer, et on espère de réviser leur décision, ce qui est possible dans le cas de la commune de Canéjean, parce qu'on attaque pour fraude.
Et dans une autre direction, sur la question sanitaire, vous faites aussi intervenir les trois députés de Gironde, Loïc Prudhomme, Nicolas Thierry et Frédéric
Zginski. Ainsi que Monique DeMarco, oui.
Auprès du ministre de la Santé.
C'est eux qui nous ont proposé, qui ont pris cette initiative. Nous, on était évidemment contents. Ils se sont s'inquiétés vraiment de ces aspects très limites au niveau sanitaire du surf park, qui vraiment cumulent tous les risques pour la santé des surfeurs. Donc, ils ont écrit effectivement au ministère de la Santé. Il y a eu un changement au ministère de la Santé. Mais
sûrement pas un bouleversement notable.
C'est donc transpartisan, c'est une initiative transpartisane de parlementaires de Gironde pour demander finalement que soit appliquée cette norme et cette classification en baignade artificielle, non pas en activité nautique, comme si les surfeurs n'allaient jamais tomber dans l'eau. Enfin voilà, c'est ridicule.
D'accord. Et alors maintenant, vous attendez que le tribunal administratif, le juge administratif ait pris connaissance de tous ces documents, à la fois les requêtes du maire et du propriétaire du surf park, puis votre requête en réplique, si j'ai bien compris. Oui. Et là, vous savez pas quand est-ce que ça va déboucher.
C'est un jugement sur le fond, donc ça prend effectivement du temps. Mais là, d'ores et déjà, donc on interpelle nos élus, les administrations qui ont délivré ces autorisations pour prendre connaissance des nouveaux éléments qu'on apporte aujourd'hui. Réviser finalement leur jugement, et c'est en leur pouvoir finalement, indépendamment de ce qui se passe au niveau du tribunal. C'est tout à fait possible. Il y a eu des autorisations de délivrer avec les éléments dont on disposait à l'époque, totalement insuffisants, totalement erronés, on va dire, pour pas dire frauduleux, ils peuvent revoir ces décisions qui ont été prises. Et les annuler finalement, c'est ça qu'on demande finalement également.
On mesure donc le gouffre qu'il y a entre les discours sur la sobriété indispensable à avoir en matière de gestion de notre ressource en eau est le fait que des projets aussi absurdes puissent voir le jour. Le paradoxe est d'autant plus grand que nous sommes à 50 km de l'océan où les spots de surf pullulent, ce que reconnaissent volontiers les porteurs de projets d'ailleurs, car leur modèle économique a besoin de la présence de nombreux surfeurs. Il leur faut 300 entrées par jour pour être rentable. On nage en plein délire. Vanessa de Surfrider nous a quant à elle parlé d'une situation encore plus scandaleuse, celle des habitants de l'île d'Oahu.
Oahu, c'est cette île d'Hawaï sur laquelle est en train d'être développé un nouveau surf park.
Incroyable.
À Hawaï.
Alors qu'il y a toutes les vagues.
On est sur un archipel de je ne sais plus combien d'îles où le surf est partout dans la culture, des plus petits jusqu'aux plus âgés. C'est le royaume des watermen et on veut leur bétonner leur île pour y faire des vagues artificielles alors qu'ils ont le paradis là devant eux. L'organisation qui aujourd'hui mobilise la communauté hawaïenne contre ce surf park met en avant effectivement malheureusement que les îles d'Hawaï ne sont pas épargnées par le changement climatique, par l'épuisement de leur aquifère dans laquelle ils vont puiser l'eau dont les communautés ont besoin pour survivre. Et à laquelle s'ajoute en plus un scandale de pollution accidentelle apparemment par la Navy américaine, par la marine américaine qui a déversé par accident des millions de gallons de kérosène dans l'aquifère de Hawaï et qui rend l'eau impropre à la consommation et qui oblige aujourd'hui Hawaï à être en perfusion avec de l'eau de l'extérieur.
Donc il n'en reste plus du tout d'aquifère disponible.
Et bien sûr, l'île d'Oahu en particulier, là où ils veulent implanter ce nouveau surf park, toute l'eau vient en bouteille et il faudrait en plus rapporter de l'eau pour remplir un surf park. C'est délirant. Donc nous mobilisons ici aussi à Canéjan et à Bordeaux pour les Hawaïens.
Vous écoutez Climat de lutte sur la clé des ondes avec Sylvie.
Nous quittons la conférence de presse des associations en lutte contre le surf park de Canéjan pour l'hôtel de région où avait lieu lundi une présentation des travaux de l'équipe scientifique à Climaterra, donc travaux portant sur la gestion quantitative de l'eau à usage agricole. Nous allons entendre tout d'abord quelques extraits de l'intervention de Daniel Compagnon, chercheur au Centre Émile Durkheim de Bordeaux. Il présentait le chapitre 3 du cahier « Enjeux de gouvernance territoriale pour une meilleure gestion quantitative de l'eau en Nouvelle-Aquitaine ».
Le chapitre commence par un petit point historique, différentes sciences sociales. Le collègue a fait remarquer que les problèmes de gestion de l'eau d'aujourd'hui, ils sont aussi le résultat de choix d'aménagement de l'espace rural qui a été fait dans le passé, et depuis très longtemps, puisqu'il fait commencer son histoire, notamment à une ordonnance d'Henri IV sur l'assèchement des marais sur les rives de différentes rivières, différents fleuves de la région, donc notamment les rives de la Gironde. Et donc il y a eu des choix qui ont été faits d'assèchement, des zones humides qui ont été asséchées, il y a eu toute cette partie des Landes de Gascogne et du département des Landes actuelles qui ont été asséchées par la plantation de résineux. Mais il y a aussi la destruction des haies et le remembrement qui est une affaire plus récente. Et d'ailleurs, alors avec un petit zeste de provocation, parce qu'il en faut un peu pour se réveiller, il est allé voir un petit peu comment on pouvait faire un petit peu l'histoire du territoire de Sainte-Soline, et il est allé voir un petit peu ce qui se passait sur ce territoire dans le passé et comment avait évolué l'espace rural dans l'environnement immédiat de la fameuse réserve d'eau qui a fait tant de controverses. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi que les problèmes d'eau que nous avons aujourd'hui, en partie, on se les est fabriqués. Ils résultent de la situation des aquifères. Alors là, on n'y peut pas grand-chose, mais sauf à remonter très loin dans le temps. Mais il y a aussi un certain nombre de décisions d'aménagement, de mise en de culture, etc., qui ont été faites dans le passé, avec la meilleure bonne volonté du monde, bien sûr, qui produisent aujourd'hui des effets qui ne sont pas totalement maîtrisés. Alors ça, c'est pour la partie historique. Ensuite, j'ai regardé un petit peu le cadre juridique. Alors, je vous disais, un domaine très encadré, les lois de l'eau successives, le cadre de gestion quantitative est assez précis. Et là-dedans, ce qui ressort, c'est le rôle central de l'autorité préfectorale. Tant dans ce qui concerne la gestion normale, on va dire, c'est-à-dire les autorisations de prélèvement qui sont faites, qui sont données par l'autorité préfectorale à des organismes de gestion qui sont collectifs, mais qui prennent une forme différente selon les territoires, et le niveau des prélèvements qui est fixé en fonction, évidemment, des étiages, en fonction d'un certain nombre de règles qui sont définies par la loi sur l'eau, mais qui, malgré tout, laissent une certaine latitude au préfet. Et puis, la gestion aussi de crise, c'est-à-dire celle qui, malheureusement, tend à devenir de plus en plus la gestion normale pendant les étés secs, quand les étés sont de plus en plus secs, et qui est caractérisée par les fameux arrêtés sécheresse qui sont pris par les préfets de département en fonction des situations locales. Alors, ces arrêtés sécheresse, d'ailleurs, sont intéressants parce que, malgré tout, ils s'appuient depuis la dernière loi sur l'eau sur un dispositif de concertation avec les acteurs de terrain, notamment les agriculteurs, évidemment, concernés au premier chef, et pour définir à la fois les volumes, mais aussi pour introduire certaines exceptions concernant la production de semences, concernant la production maraîchère dans certains territoires, etc., en fonction de ce qui est défini, évidemment, comme un intérêt public. Le problème, c'est évidemment, ces arrêtés sécheresse deviennent de plus en plus importants dans le dispositif du fait de la récurrence des sécheresses, et c'est en soi un problème. Évidemment, on le disait, il y a des situations extrêmement contrastées. Alors, en Loire-Bretagne, donc la partie nord de notre région, on a des situations qui sont contrastées au niveau des sous-bassins. Mais en Adour-Garonne, on a malheureusement une certaine unité de la situation et qui est assez tendue, avec un niveau de prélèvement que tous, de l'agence de l'eau, en passant par différents rapports d'inspection, soulignent, un niveau de prélèvement pour les usages agricoles qui n'est pas soutenable, surtout en période d'étiage. Quand je regarde un petit peu les dossiers qui font contentieux, je suis allé avec mes collègues me promener au tribunal administratif, virtuellement, on s'entend, notamment au tribunal administratif de Poitiers, qui s'est beaucoup prononcé sur ces questions, et on entend quelquefois l'idée qu'il faut raccourcir l'instruction, qu'il faut la rendre plus simple et qu'il faut accélérer la construction des réserves. Non, moi, notre sentiment, c'est qu'il ne faut pas raccourcir l'instruction. Et en revanche, il faut la fonder sur des études scientifiques robustes. Et de ce point de vue-là, on a appris par l'expérience que la robustesse, ça veut dire aussi la capacité à se projeter à des horizons. N'oubliez pas que lorsqu'on demande à des scientifiques de travailler, qu'on leur donne un cahier des charges, ils font ce qu'on leur demande en général, hein, et que les études scientifiques ne donnent que les résultats qu'on a voulu leur commander au départ. Hein. Donc des études scientifiques robustes, à condition, et bien entendu, qu'on en tienne compte, c'est-à-dire qu'elles soient conçues par tous les acteurs comme des éléments contraignants, c'est-à-dire que c'est pas une question d'opinion, la science, hein, on établit des faits ou on les établit pas. Et que l'autorité préfectorale en tienne compte également, parce que il y a quelques dossiers qui ont suscité des interrogations de ce point de vue-là, parce que on a vu que on passait par-dessus des études d'impact, par exemple, qui avaient été produites et qui étaient négatives, et pourtant on autorisait certains projets. Donc l'idée, évidemment, c'est de bâtir un compromis politique sur les usages de la ressource. Alors on n'est pas tellement aidé par les évolutions contemporaines, notamment l'évolution du cadrage politique national, qui est assez problématique parce qu'on était parti au début de la période récente, hein, de cette décennie, sur des objectifs de prélèvement de la ressource en diminution. Sur la recherche d'un consensus lors des assises de l'eau autour de cet objectif de réduction et de, donc de sobriété dans l'usage de l'eau. Et on constate que le Varenne agricole de l'eau qui est organisé postérieurement, en 21-22, est en fait en recul par rapport à ces objectifs. Quand on prend en compte, par exemple, le plan sur l'eau qui a été annoncé par le président de la République au printemps dernier, ce qui paraît déjà très loin, on était sur des objectifs de réduction en recul par rapport à ceux des assises de l'eau. Depuis, l'accent qui a été mis dans le discours public, notamment par l'État, porte beaucoup sur les réserves, l'accélération de la construction de réserves de substitution, sans forcément les réserves aux réserves que j'ai évoquées à l'instant. La mention de nouvelles ressources avec les eaux usées, par exemple, plutôt que l'insistance qui était portée avant sur la sobriété. Et un autre exemple de cette évolution du cadrage, c'est l'augmentation des redevances pour irrigation et pollution diffuse qui avait été annoncée par le président de la République au moment de son plan eau et qui ont été abandonnées au mois de décembre, à la demande du syndicat majoritaire dans le monde agricole. Donc on est dans une situation où le cadrage général n'est pas forcément très, très positif et on est dans des situations aussi où un certain nombre de réserves construites illégalement n'ont pas été détruites, autrement dit un respect du droit qui est assez à géométrie variable et des décisions de justice qui ne sont pas exécutées. Alors je rappelle juste un petit encadré dans le dernier chapitre le cas de Caussad, qui est tellement caricatural que je ne suis pas nécessairement très représentatif, mais qui est une dérive vers laquelle il ne faut pas aller. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on va plus loin. Le problème de l'adaptation au changement climatique, comme on l'a évoqué de différentes façons, c'est un problème de temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien réagir aujourd'hui à la crise de la sécheresse, de la disponibilité en eau dans le monde agricole et dire, bon, voilà, on a un problème de gestion, là, de crise. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, on fait des réserves d'eau pour de substitution. On va essayer de développer la ressource, etc. La question de l'adaptation au changement climatique, c'est que on doit se projeter sur des horizons beaucoup plus lointains. Et en particulier, des horizons 2050, 2000. Alors, le président disait tout à l'heure, 2050, c'est trop loin. Et oui, c'est trop loin, mais en même temps, 2030, c'est trop près. Hein. Vous voyez qu'on nous a annoncé qu'on allait réduire nos émissions de 55% d'ici 2030, sans nous expliquer comment. Bon, il faut que l'on se projette collectivement à des horizons de plus en plus lointains, de façon séquencée, c'est-à-dire qu'on ne fera pas les mêmes choses à l'horizon de 5 ans, à l'horizon de 20 ans et à l'horizon de la fin du siècle. La question, c'est que ce que nous faisons maintenant, par exemple, illustration hypothétique des réserves de substitution, ce que nous faisons maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est congruent avec ce que nous devons faire à l'horizon de 20 ans? Est-ce que c'est congruent avec ce que nous devons faire à l'horizon de 100 ans? Est-ce que ça va être une forme de mesure d'urgence qui n'aura pas de conséquences? Est-ce que ça va être une forme de maladaptation qui va se traduire par une limitation des possibilités pour le futur? Il y a, je pense, aucun d'entre nous individuellement qui peut répondre à cette question. C'est un objet de débat collectif complexe et qui doit être aussi un débat politique. Alors, un point sur lequel je veux revenir, notre cahier porte sur les usages agricoles et la gestion quantitative de l'eau. Et notre intérêt ici, c'était de mettre en débat cette question-là. Mais il faut savoir que, bien qu'ils soient les premiers concernés, les agriculteurs ne sont pas les seuls concernés par ce débat, parce que l'usage de la ressource en eau, même si le droit n'est pas très clair, comme on le montre sur la question du bien commun ou du bien pas commun, le Code civil et la loi sur l'eau ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus, ce qui nous importe, c'est que la ressource en eau, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde dans les efforts à faire. Et là, on rappelle quand même dans le cahier l'importance de coupler toute mesure de sobriété dans les usages agricoles avec des mesures de sobriété renforcée dans les usages urbains, car il suffit que ces usages continuent à déraper pour qu'on soit déjà dans une situation compliquée en termes de gestion de la ressource. Mais c'est aussi la question du milieu naturel, de sa préservation et de l'intérêt que ça présente pour le collectif, pour l'ensemble de la société, y compris dans une perspective d'adaptation, c'est-à-dire un peu utilitariste, hein, d'avoir un usage, un milieu naturel préservé à long terme, à l'horizon de la fin de siècle. Quelle est l'adaptation que l'on veut à long terme? Quel est le projet qu'on a à long terme, notamment pour la région Adour-Garonne, dont on a vu que la situation va aller en s'empirant sur le plan de la disponibilité de la ressource. Et autrement dit, c'est la question du modèle agricole. Et cette question du modèle agricole ne se résout pas simplement à opposer agriculture biologique et agriculture conventionnelle. Elle est plus complexe que ça, parce qu'elle mobilise aussi la question de la finalité de l'activité agricole. Juste une question pour vous faire réfléchir sur ça, c'est: est-ce que l'objectif, c'est de rester la sixième puissance exportatrice de produits agricoles dans le monde ? Est-ce que l'objectif collectif que nous soutenons, c'est ça, l'agriculture? Donc, c'est une richesse, c'est une contribution à la richesse nationale. La question, c'est: quelles sont les conséquences? Et pour combien de temps?
On résume cette intervention de Daniel Compagnon, membre de l'équipe Acclimaterra, lors de la présentation de ce 22 janvier. Un plan eau de Macron dont les objectifs sont en recul par rapport aux Varennes de l'eau, un cadrage politique incohérent, des bassines illégales et des autorisations qui ne tiennent pas compte de l'expertise scientifique, des mesures d'urgence mal adaptées et qui ne sont pas soutenables à moyen et à long terme. Vous trouverez ce cahier « Gestion quantitative de l'eau et usage agricole sous contrainte climatique » en ligne, on vous met le lien. On écoute maintenant une bien belle chanson composée par une bordelaise, Julie Lagarrigue.
Dis, le jardin manque d'eau. Ces derniers jours, il a fait chaud. Si nous ne voulons pas qu'il meure, il nous faudrait planter du cœur. Le jardin manque d'eau. Ces derniers jours, il a fait chaud. Si nous ne voulons pas qu'il meure, il nous faudrait planter du cœur. Le temps où nous n'étions que deux, les nuits d'amour aux amoureux, il a filé entre nos doigts et chacun est rentré chez soi. Le temps où nous n'étions que deux, les nuits d'amour aux amoureux, il a filé entre nos doigts et chacun est rentré chez soi. Les nuits d'amour aux amoureux, il a filé entre nos doigts et chacun est rentré chez soi. Le temps où nous n'étions que deux, les nuits d'amour aux amoureux, il a filé entre nos doigts et chacun est rentré chez soi.
C'était Le Jardin manque d'eau, de et par Julie Lagarrigue. On vous met le lien YouTube pour le magnifique clip de cette chanson réalisé par Mathieu Vanberg, un complice de Climat de lutte de longue date. Nous partons maintenant pour les cimes enneigées de la Clusaz avec Emouli, qui nous parle du combat mené et gagné là-bas contre d'autres projets inutiles et délirants.
Donc c'est une lutte qui a commencé autour de 2019-2020, quand des habitants de la Clusaz, donc qui est une petite station de ski dans les Arabies, donc pas loin d'Annecy, se sont rendus compte qu'il y avait un projet de retenue collinaire, donc ça c'est l'élément de langage qui est employé par la mairie de la Clusaz et la société de remontée mécanique qui porte le projet, dans le bois de la Colombière. L'idée c'est de faire, donc de raser cette forêt dans laquelle il y a 58 espèces protégées, en tout cas en partie sur 8 hectares, et de creuser une bassine qui a le volume de 60 piscines olympiques, donc 158 000 m3, pour alimenter les canons à neige. Et en fait, ce projet il est donc ressorti il y a 3 ans, mais c'est un projet qui à la base était porté par la société de remontée mécanique. Et donc c'est très clair que c'est un projet qui a vocation à servir le ski et le modèle du tout ski qu'il sous-tend. Mais l'argument qui est mobilisé ici, c'est celui de l'eau potable. Et c'est ça qui fait que c'est possible de détruire des espaces où il y a des espèces protégées. Et c'est aussi une zone qui est à proximité directe d'une tourbière Natura 2000.
Alors, voilà. Tu veux dire l'argument, c'est-à-dire que le porteur du projet dit que c'est pour économiser de l'eau potable qu'ils font cette bassine.
Voilà, qu'il y a un tiers de la retenue qui servira pour l'eau potable. Sachant que, bon, en 2018, il y a une grosse sécheresse à la Clusaz qui a fait peur à tout le monde. Et donc, c'est un argument qui fonctionne bien sur le plan de l'opinion. Mais, par exemple, le projet en détail, il coûte 10 millions. Et ça coûterait 10 millions supplémentaires que de construire la centrale de potabilisation qui serait nécessaire à ce que cette eau serve pour le potable. Donc c'est clairement un alibi, mais voilà. C'est ça qui est mobilisé comme argument. Et donc ce collectif qui s'appelle... c'est un agrégat de plein de collectifs. Mais du coup, l'ensemble s'appelle Collectif Sauvons Beauregard, Sauvons le plateau de Beauregard de la destruction. Il a fait un travail d'enquête, communication autour de l'enquête publique, notamment, pour mobiliser et comprendre quels étaient les enjeux autour de cette retenue collinaire. Et ensuite, en 2021, à l'automne, ils se sont rendus compte que le projet avait été validé par les commissaires enquêteurs et que les travaux menaçaient de commencer. Donc à ce moment-là, c'est le groupe local d'Extinction Rébellion à Annecy qui a été... à qui on a demandé de faire quelque chose par rapport à ça. Et donc, on a monté une occupation un peu improvisée sur la fin de la période de coupe autorisée, qui dure 2 mois. Donc, fin novembre 2021, on a occupé 2 semaines. Et ça, ça a permis que les travaux ne commencent pas à ce moment-là.
Et, occupé là-haut, à 1500 mètres d'altitude.
Voilà, donc dans ce bois, où on a fait des installations sommaires en hauteur, qui rendaient plus difficile l'évacuation, et qui était aussi un moment, cette occupation de 2 semaines, qui s'est terminée par la neige, un moment de solidarité et d'interconnaissance avec le collectif Sauvons Beauregard, où on a pu tisser des liens de confiance qui sont très chouettes et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, et qui sont intergénérationnels aussi. Donc ça, c'était une première victoire qui était chouette à vivre et à raconter et qui a donné un sentiment de puissance collective. Et je nomme ça parce que je pense que c'est aussi ce qui a donné un tremplin à cette lutte pour la suite. Et notre manière suivante de nous mobiliser, ça a été de faire une action avec les soulèvements de la terre qui s'appelait le grondement des cimes, qui visait à mettre en lumière en fait le système économique derrière ces bassines des neiges, parce que donc il y a 100 retenues qui sont prévues dans un plan régional pour la région donc Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour sauver le ski,
pour renforcer le modèle existant, selon les termes de Monsieur Wauquiez.
Renforcer les.
Alors conforter le modèle existant.
Ah oui.
Et puis. Voilà, ça c'est pas Wauquiez, c'est son conseiller à la montagne qui le dit, mais continuer à faire de la neige pour ensuite penser la transition plus tard avec l'argent du ski, quoi. Donc voilà, ça c'est le contexte où ils vont faire énormément de bassines, donc c'est quelque chose qui est systémique, c'est pas du tout propre à la Clusaz, et puis c'est une manière de penser l'eau qui est similaire à celle des bassines de l'autre côté de la France, évidemment, et surtout qui est sous-tendu par l'immobilier. Parce que ce qui se passe, je développe juste un petit peu, parce que c'est ça tout le fond de la lutte, c'est quand même autour de ça, c'est que les promoteurs immobiliers achètent du terrain au prix le plus cher, parce qu'ils peuvent se le permettre et qu'ils ont des modèles économiques qui permettent d'acheter... à des prix très élevés. Donc ça fait monter le prix de l'immobilier. Et ensuite, pour rentabiliser leurs achats extrêmement chers, ils construisent du 5 étoiles. Et donc ça fait que ça attire une clientèle la plus riche possible. Et en fait, vu que il y a des superpositions entre les personnes qui possèdent ensuite les hôtels et toutes les infrastructures de tourisme et les personnes qui possèdent les remontées mécaniques, et ben en fait, ça crée un microcosme local où tout le monde a intérêt à ce que ce soit les personnes les plus riches possibles qui viennent dans les stations de ski pour que tout le monde se fasse le plus d'argent possible sur un forfait acheté et de faire en sorte que que pour chaque euro dépensé dans un forfait, il y ait le plus d'argent possible que ça dépensé dans la station. Et donc ça crée aussi des besoins sur enfin, des exigences par rapport aux formes de vie qui sont développées sur le territoire, qui sont d'avoir des Gucci, des Prada dans les villages de montagne, d'avoir de la neige à Noël absolument, parce que les gens qui ont payé hyper cher leur semaine au ski, et ben du coup, ils ont l'exigence que tout soit, voilà. Et donc, on en vient à créer un Disneyland complet où... il y a des canons à neige qui sont mis dans les villages, donc pas sur les pistes, pour que ça fasse une ambiance Noël. Mmh. Donc voilà, c'est le rapport au vivant et du coup aux montagnes qu'on essayait de mettre en lumière dans cet événement du Grondement des Cimes qui ciblait les acteurs immobiliers qui sont notamment MGM, qui est un gros promoteur dans le coin. Et ensuite, à l'automne 2022, donc, il y a eu une seconde occupation qui s'appelait la Clusaz, qui a duré un mois. Et ça a été une anticipation du fait que les travaux allaient pouvoir recommencer. Qui s'est soldé par le fait que le tribunal administratif de Grenoble a validé un recours suspensif sur qui était porté par le collectif Sauvons Beauregard sur ce projet, parce que donc sur le fond il y a des recours qui sont posés, et donc dans l'entretemps le tribunal administratif de Grenoble a validé le fait qu'il fallait pas détruire dans le doute, mais plutôt dans le doute ne pas détruire, et donc l'occupation a été pliée et
parce que vous avez gagné.
Voilà, parce qu'on a gagné au tribunal administratif, et ça c'est aussi une composante forte de notre lutte, c'est qu'on a donc toujours fonctionné en complémentarité avec ce collectif Sauvons Beauregard, et puis là c'est lisible très clairement cet automne ce qui s'est passé, c'est que en fait, si nous on n'avait pas occupé le bois, et les travaux auraient commencé, et puis en fait c'est le fait que le collectif entreprenne des démarches juridiques qui fait que le projet ne se fera pas à terme, et que là on a pu arrêter l'occupation, et que peut-être que pour finir la saga de toutes les
oui.
la saga de quatre victoires à la Clusaz, c'est que donc en septembre le maire de la Clusaz a annoncé un moratoire sur le projet, où entre les lignes on voit qu'il réoriente, dit cap sur 2040, et en fait donc on comprend que c'est Le projet va être remusclé, mais en fait probablement ne jamais se faire, qui fait le deuil plus ou moins explicitement, mais en tout cas il y a un aveu d'échec à l'endroit de ce dossier, où ils disent qu'ils mettent en suspens, en tout cas ils mettent plus d'énergie là-dedans pour le moment, et que quelques semaines plus tard là, il y a la Cour de cassation qui a rejeté l'appel qui était fait par la mairie de la Clusaz et le ministère de la Transition écologique sur le référé qui a permis à l'occupation de partir en toute tranquillité.
Qui a permis la suspension de travaux.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et maintenant, évidemment, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait et de prendre un pas de recul et de voir toute l'immensité des choses qui restent à faire, et notamment rien que si on prend le territoire des Aravis, ce qui est plutôt l'échelle du collectif Sauvons Borgard et surtout du collectif Fier Aravis, qui est une des composantes. Il y a je ne sais plus combien de centaines de lits qui vont être construits au Grand Bornand, qui est le village juste à côté. Juste à genre quelques centaines de mètres à vol d'oiseau du bois qu'on a occupé et qu'on a défendu, il y a une autre retenue collinaire qui va se faire, mais vraiment elle est juste en face du bois, quoi, pour alimenter un projet pharaonique qui est le Hameau de l'Ours. Donc il y a un complexe 5 étoiles avec 800 mètres carrés au sol de spa, piscine, hammam, sauna, machin, qui a notamment été contourné par la manifestation avec les soulèvements de la terre. Et donc voilà, ça pose un peu ces questions-là dans un contexte où, dans l'arc alpin, si on prend seulement cette échelle-là pour le moment, ça bouge de partout autour de cette question de comment habiter les montagnes et qu'est-ce que c'est que des modèles économiques qui pourraient être désirables, et notamment avec cette question du ski qui cristallise plein de choses, où il y a plein de personnes qui en vivent, qui a la sensation d'avoir été sauvées par le ski, avec une mémoire de la misère, entre guillemets ou pas, qu'il y avait dans les montagnes auparavant. Enfin, un truc ambigu sur le bond dans la qualité de vie qui a été très rapide, qu'a permis l'arrivée du ski. Et en fait, c'est un modèle économique qui a 50 ans, mais dont ces territoires sont maintenant complètement dépendants, et qui détruisent à une vitesse affolante les sols, les systèmes hydriques, etc. Comment, à l'échelle alpine, par exemple, on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ces montagnes, et est-ce qu'il y a des manières d'habiter la montagne qui permettent de s'organiser autour de la justice sociale et de la résilience, sachant que le ski, c'est un modèle qui produit en France 9 milliards par an. Et du coup, il y a cette histoire de deuil qui est très, qui est à toutes les échelles, partout dans la société. C'est ça, les crises écologiques, ce à quoi ça nous confronte. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se cristalliser à l'échelle d'un village, par exemple, de la Clusaz. Il y a très nettement le fait que le ski, ça rapporte 9 milliards par an et qu'il n'y a pas d'autres modèles économique qui rapporte 9 milliards par an. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire demain, trouver d'autres manières d'habiter, quoi. On est au pied du mur de manière hyper flagrante, et pendant l'occupation, là, c'était dans tous les foyers, cette question-là de la retenue, pas la retenue, et en fait surtout tout ce que ça sous-tend.
Et on voit que les élus, tout le travail des élus qui a été d'accompagner ce développement sans jamais le remettre en question et sans jamais rien anticiper, ouais. C'est catastrophique. Ça ressemble, c'est vrai, aux autres bassines, celles du Marais Poitevin, où il n'y a rien qui rapporte plus que le maïs aujourd'hui pour un agriculteur qui a des terres. Donc il n'y a rien qui rapporte plus en termes d'aide de la PAC, en termes de prix de vente et de bénéfices à l'hectare. Mais on voit bien qu'on va dans le mur avec cette agriculture.
Et donc, fondamentalement, la question, c'est celle de la démocratie. Et du coup, derrière la démocratie, ce que ça implique en termes d'information, de temps qu'on peut consacrer à s'impliquer dans la vie politique. Ce qu'on a trouvé en fait même intéressant dans la situation de crise qu'on a traversée à la Clusaz, parce que donc il y avait cette occupation et ça a provoqué des menaces de mort dans tous les sens, énormément de pression sur les gens du village. Enfin, là, les personnes qui vivent à la Clusaz, il y a des personnes qui commencent seulement à leur reparler au marché, et des personnes avec qui c'est fini, il n'y aura plus jamais de relation. Donc c'est très intense en termes de vie sociale, et en fait, c'est une situation qui est hyper confrontante, et en même temps qui fait exister les liens qui sont entre les gens. Toute la violence que ça crée d'avoir une occupation et une confrontation forte autour d'un projet. D'une part, c'est hyper difficile à vivre, et d'autre part, ça met en lumière la manière dont l'eau, par exemple, ça relie tout le monde, parce que tout le monde à la Clusaz avait peur autour de ce projet de retenue collinaire, soit qu'elle se fasse pas et donc qu'on n'ait plus d'eau, parce que c'était, enfin, les gens voulaient la faire pour qu'il y ait de l'eau, d'une certaine manière, dans un certain système de croyance, et de l'autre, des gens qui avaient peur qu'elle se fasse et qu'on n'ait plus d'eau. Enfin, oui. C'est... Et du coup, le fait que tout le monde se soit écharpé la gueule autour de ce truc-là, c'était... Enfin, moi, d'une certaine manière, je trouve ça intéressant et précieux comme situation dans un contexte où le capitalisme, il nous coupe de nos liens au territoire, il nous coupe de nos liens entre nous. Et en fait, là, le lien, il se remet à jour de manière conflictuelle. Et du coup, il est à transformer vers des manières plus souhaitables et aussi constructives où on peut faire des trucs ensemble. Mais que, voilà, là, c'est peut-être un endroit où il y a un conflit fertile qui peut permettre de mobiliser les gens, en fait, parce que ça a touché tout le monde dans à la fois comment on se raconte qu'on va survivre, et puis aussi sur comment on se raconte qu'on est censé participer à la vie politique ou pas, quoi, de ce que c'est censé être la démocratie.
Oui, si on laisse faire de tels projets, dans 10-20 ans, ce sera un conflit à mort, puisqu'il n'y aura plus d'eau pour certains, et... soit c'est un conflit en ce moment qu'on peut gérer de façon humaine, soit c'est la catastrophe que tout le monde va prendre dans la figure.
Ouais. Bah, évidemment, ce conflit-là, on a essayé, par exemple, de faire une assemblée populaire autour de l'eau, une assemblée de territoire, qui a apporté des choses et après qui était très limitée à plein d'autres endroits. Et moi, ce que ça me fait dire, cette situation et cette expérience-là, c'est qu'on n'est pas... qu'on manque à beaucoup d'endroits d'outils pour gérer ces conflits, et que en fait dans l'urgence de mener des luttes et aussi dans la disproportion du rapport de force, enfin en fait là c'est bien gentil de vouloir dialoguer, mais en fait on est face à des gens qui ont un appareil de propagande médiatique et des années de culture capitaliste et coloniale, enfin où c'est hyper disproportionné dans le rapport de force par rapport aux propos qu'on porte, mais qu'en même temps, du coup, il faut trouver avec tous ces rapports de pouvoir qui se jouent, cette urgence, les blessures personnelles qui font qu'en fait peut-être on n'a pas envie d'aller parler aux personnes qui nous empoisonnent la gueule, voilà, des manières de transformer les relations, et puis du coup de créer des espaces où on peut parler de qu'est-ce qui nous anime les uns les unes les autres, parce qu'il y a aussi des échelles différentes, en fait c'est différent de parler à Monsieur Vauquier ou au saisonnier qui vit du ski. En fait, si on se dit que en tant que peuple, on arrive à créer des vrais débats à partir de positions hyper polarisées à la base, et après de transformer ça en truc qui fait du sens pour tout un groupe très large, et ben là on gagne un pouvoir immense que plutôt on a envie de recouvrer, quoi, par rapport aux institutions, par rapport à plein de choses.
Eh bien, merci Emouli pour ces précisions, ces perspectives, parce que c'est effectivement des questions qui se posent dans beaucoup de collectifs. Nous allons terminer cette émission donc sur l'eau et ses mésusages par un appel vibrant à participer au mois de juillet, à réserver votre mois de juillet, la semaine du 14 au 21, pour justement faire converger toutes ces luttes sur l'eau. Il y aura donc du 14 au 19 un village pour la défense de l'eau, des convois qui vont partir d'un peu partout, se retrouver dans le Poitou pour un week-end les 20 et 21 juillet. La date est annoncée dès aujourd'hui, donc plusieurs mois à l'avance, afin de permettre un travail de mobilisation et de formation continue d'ici là, afin que ce moment de l'été soit d'ores et déjà réservé à toutes celles et ceux qui reçoivent cet appel. Cette date se construira en jumelage avec d'autres mobilisations estivales italiennes, notamment pour préserver l'eau face à des projets de bassines des neiges ou d'autres projets complètement dispendieux en eau ou privatisant l'eau. D'ici là, n'oublions pas la répression d'État et appelons à continuer à soutenir activement les camarades blessés dans les manifestations de Sainte-Soline et à soutenir ceux qui sont poursuivis en justice et ont besoin de votre aide, de notre aide. Nobassaran, à la semaine prochaine.